Non, au niveau de parler bon, demain, l'agriculture, à mon avis, quand on parle du développement durable, il est important demain de mettre au pied des perspectives de l'agriculture et l'élevage, bien sûr. Moi, je pense que actuellement, le grand problème, c'est quand même l'aspect foncier. Parce que, on voit bien hein, les choses, comment elles se passent. Hein. Dans notre environnement de tous les jours, il y a tous les jours, on voit des bons terrains agricoles qui partent dans d'autres directions parce que ben, il n'y a personne qui a les moyens pour acquérir du foncier. Et est-ce que, en même temps qu'on soutient, et moi je suis d'accord sur cet objectif, est-ce qu'en même temps qu'on soutient le renouvellement de l'agriculture, on est prêt à mettre des moyens pour favoriser la transmission du foncier pour justement, sans foncier, l'agriculture et l'élevage en particulier, c'est même pas la peine d'en parler. Hein. Là, moi, je dis que c'est un point fort. Et là, malheureusement, il y a eu toute une série de démarches qui ont été faites dans différents domaines, mais ça n'a pas donné les résultats escomptés parce que, bon, il y a eu une envolée des prix, etc. On connaît bien dans notre département en particulier. Mais moi, je crois qu'il faut véritablement se donner les moyens d'acquérir, de payer au propriétaire qui s'en va ben les moyens. On veut maintenir cet espace dans une perspective de développement de l'agriculture pour toute une série d'autres, une série de raisons. L'environnement, des coupes vertes, des coupures vertes, des possibilités de faire des barrières pare-feu contre des feux éventuels, etc. Donc là, il faut véritablement mettre en adéquation cet aspect des choses. Enfin, quoi, on parle, on met des mots, et ça ne donne aucun résultat. On le voit bien actuellement. Comment ça se passe hein.
Alors là, la réponse est très difficile, bien entendu, on va barrer ici. Oui. Mais vous savez que si on s'inspirait de ce qu'ont fait nos anciens, on ne se tromperait pas. Ils ont construit des villages, l'un de le vôtre, je ne connaissais pas, mais ils ont construit un endroit où on ne pourrait rien cultiver. Ils gardent les parties plates pour cultiver, ils ne seraient pas amusés à foutre une maison en plein milieu des cultures. Donc ça, c'est, ça paraissait tellement naturel. Ils disent à son fils, tiens, j'ai vu un endroit là, tu pourras construire ta baraque là, parce que là, de toute façon, on ne cultivera jamais. Puis ils ont fait ça pour des villages, ils ont fait ça pour des hameaux, ils n'ont pas foutu, comme on a fait nous chez nous, des maisons de vente. Donc c'est pas facile. Le prix du foncier est tel aujourd'hui que si ce n'est pas ou l'État, ou la région, ou le département, ou les communes, on n'y arrivera pas. Moi, j'ai acheté trois propriétés agricoles, on va essayer de trouver quelqu'un qui puisse s'en servir et les faire vivre. Mais c'est extrêmement difficile dans tous les sens. Mais quand même, il y a une petite révolution qui se passe en ce moment. Notamment, ça vient du consommateur. Le consommateur, il en a marre de bouffer des trucs, des pesticides et autres. Hein. Vous savez que c'est catastrophique aujourd'hui. Et il est de plus en plus intéressé par la confiance qu'il peut avoir avec un producteur. Nous, sur Monsanto, on manque de producteurs et on a par contre beaucoup de consommateurs. On a fait des amas, c'est-à-dire des groupements, vous connaissez ça, d'habitants, qui se disent oh, j'ai droit à un panier de légumes par semaine, quoi ils s'arrangent. Et c'est une occasion aussi d'avoir des produits frais. Le cultivateur, il propose souvent au consommateur de venir voir le dimanche comment il travaille pour bien faire voir qu'il n'est pas n'importe quoi. C'est pas forcément toujours du bio, quoi. Mais il faut éviter d'embrouiller les pesticides à outrance, comme on le fait. Moi, je ne suis pas forcément à bon pour le bio. Mais on peut faire. Agriculture de proximité, éviter les déplacements. Le jour où on a une vraie grève des transports, on manquera de nourriture. Hein. En 2-3 jours, les hypermarchés seront largement dévalisés, on n'aura rien du tout. Et heureusement, il faudrait donc, à partir de maintenant, que dans le moyen pays et le haut pays, bon, le littoral ne va pas le faire, il faudrait qu'on garde quelques espaces agricoles. Mais à quel prix? C'est ça qui est difficile. C'est trop cher. Moi, j'ai des terrains au prix normal, et comment voulez-vous que je le revende au prix agricole? C'est pas simple. On essaie de trouver des solutions.
Non, mais on est d'accord, mais comment on peut, dans les conditions actuelles, accepter qu'on mette autant d'argent dans toutes ces lignes d'industrie qui ont un intérêt? Bon, il n'est pas question de ça. Mais je veux dire, si on ne prévoit pas des moyens accordés peut-être aux collectivités territoriales, pour qu'elles acquièrent du foncier pour favoriser l'installation. Moi, je crois qu'on pourra parler véritablement de développement durable de notre environnement si on y met le prix. Et après, c'est vrai qu'il faut que les producteurs puissent vivre de leur métier. Ça, c'est clair aussi.
J'avais essayé une solution, mais j'ai échoué complètement. Lors d'une phase d'occupation des sols, il faut que vous arriviez à différencier la valeur d'un terrain par rapport à sa constructibilité, à différencier de la valeur du terrain complet. Ça ne marche pas. On pourrait faire ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quelqu'un qui a un terrain à la périphérie qui n'est pas directement près de la ville, mais à la mairie, on lui dit, bon, on va te donner la valeur de ce terrain-là, mais il faut que ça complique les notaires, parce qu'il faut qu'il y ait pratiquement deux actes. D'une part, quelqu'un va acheter le droit à construire, donc le terrain il sera inconstruisible complètement, mais il garde quand même la propriété du terrain. Il pourra aller s'y balader le dimanche s'il veut. Mais ça, j'ai voulu dire, la loi existe. Mais la D2 m'a toujours déconseillé, me dit c'est trop compliqué pour faire double acte. Alors on vend le droit à construire et après on vend le terrain pour faire ce qu'on peut faire, mais sauf des constructions, ça ne marche pas. Donc la loi n'est pas adaptée. Mais tu as raison d'en parler, c'est essentiel pour nous. Mais par contre, malheureusement, ce sera trop tard quand on va le faire, mais cette poussée pour les produits de bonne qualité, les mamans qui ne veulent plus empoisonner leurs enfants, qui se rendent compte des problèmes que je travaille là-dessus aussi. L'agence santé environnement que j'ai créée à Paris, là, elle commence à se dire, mais je tue mon enfant, quoi, plutôt que je le fais bouffer. Donc, il y aura un changement. Malheureusement, j'espère que ça trop tard. Enfin, chez nous, il n'y aura plus de zones agricoles. Chez vous, il y en aura encore un petit peu. Chez nous, il y en aura. Quand je dis chez vous, je veux dire le moyen pays.
Monsieur, je suis un peu étonné de ne pas avoir entendu comme membre, sinon de droit en tout cas, comme adhérent, les SAFER.
La loi est bien publique, je crois qu'il a dit, hein. Ouais. Conseil régional, conseil général, commune, EPCI. Bon, après on peut demander de faire à tout le monde, la chambre d'agriculture, les SAFER, tout ça.
C'est
un instrument de maîtrise. Mais c'est un instrument qui rentre dans le PNR.
De maîtrise ou de désordre. Je ne vais pas en grosse place.
Juste une chose. Vous avez entendu pour vous répondre aussi que les communes sont rentrées, que les communes sont là, le conseil général. Qui est-ce qui intervient ou est-ce qui est le partenaire des affaires et qui s'en sert, je dis en tant qu'outil ? Les communes. Donc aujourd'hui, une commune aujourd'hui, qui est adhérente et qui signe.
Elles sont autonomes.
Non, c'est ce que je veux dire. Les affaires sont autonomes. Mais je veux dire, en règle générale, il peut y avoir à ce moment-là des relations pour l'achat du foncier, pour la préservation du territoire à travers les affaires. Donc aujourd'hui, oui. C'est une bonne chose.
Là, je pense que si on vous suit dans cette logique, ça fait donner à la collectivité publique un rôle qui n'est peut-être pas celui d'un État très libéral. Alors, effectivement, c'est là, dès lors qu'on achète en collectivité des terres, etc., ça a des relents.
Et là, c'est... Là, vous avez une réponse avec les amis du bar, on retravaille sur une propriété à 20 euros, hein.
Oui. Oui, je voudrais dire deux mots. Donc, au sujet des SAFER, la SAFER, c'est un outil. C'est un outil très intéressant, mais un outil qui a peu de pouvoir. Peu de pouvoir parce qu'en fait, l'agriculteur est prioritaire, mais c'est celui qui, si le prix était élevé, l'agriculteur y passe pas. Par contre, il me semble que dans le cadre du PNR, et j'espère que la charte... au niveau agricole va aller dans ce sens-là, on pourrait peut-être cadrer et donner plus de pouvoir aux SAFER, et je ne sais pas comment c'est possible au niveau législatif, mais pour que justement les terrains ne se perdent pas. Je voulais revenir à ça, je suis en train de mélanger, mais on a la loi montagne qui nous protège, et en théorie, une terre agricole, elle doit rester agricole. Si les mairies jouent le jeu, on doit pouvoir construire aux abords des villages et les terres agricoles, elles doivent rester agricoles. Il me semble que c'est essentiel, mais il n'y a pas une histoire de prix. Il faut que la terre soit celui qui la travaille. Et donc, peut-être qu'un des enjeux à faire passer dans la charte, c'est la protection du foncier en donnant plus de pouvoir aux SAFER et que les agriculteurs soient reconnus en tant que tels. J'ai perdu le fil de mon idée.
Alors, juste une chose. Dans les commissions que j'annonçais, les commissions thématiques que nous avions, la SAFER, donc, apparaît déjà deux fois dans deux sous-commissions. Patrimoine, vie culturelle, donc il apparaît. Et ensuite, dans la partie donc, qui est SAFER, c'est développement économique et durable. Donc la SAFER, en ce moment, c'est inscrit, il y aura un représentant de la SAFER qui va participer donc, à nos travaux, à nos discussions.
Enfin, c'est pas la panacée, la SAFER.
Loin de là.
Où elle est tenue de passer par des estimations, des fameuses évaluations domaniales, et que c'est en définitive un autre bras de la puissance publique qui défend aussi ses propres intérêts. Elle joue le rôle d'intermédiaire. C'est un secret pour personne, peut-être pas dans ce département, mais dans la majorité de la France, elle devrait quasiment être toute en liquidation judiciaire. Je ne sais pas, les SAFER, il faut peut-être trouver autre chose, peut-être renforcer par le biais contractuel les pouvoirs du PNR, peut-être dans cette voie-là.
Je voudrais rajouter que c'est de la responsabilité des communes, il me semble, de faire respecter la loi et que quand ils font des cartes communales, de déterminer, ça peut être une de mes questions, de déterminer des secteurs agricoles et que ça soit fermé, c'est-à-dire que ça reste agricole. Et voilà, donc et ça c'est peut-être le rôle de la charte, d'aller dans ce sens-là au niveau agricole.
Moi, je veux bien essayer de répondre sur l'urbanisme. D'ailleurs, c'est une question que je voulais poser, mais je ne sais pas si c'est le moment de la poser. Après, moi, ce qui me gêne un petit peu dans tout ce que vous venez d'énumérer, je le dis parce que j'ai l'habitude de dire les choses, c'est que vous avez énuméré tout un tas de panels de choses. Ça voudrait dire que quand même tous nos anciens nous ont laissé un héritage fabuleux, ils ont été bons à rien. Moi, ça me gêne un petit peu. Parce que quand même, si on a tout ça, c'est quand même assez progressif. Moi, je pense que
c'est une enquête socio-professionnelle. Donc, c'est un regard aujourd'hui qu'ont eu les socio-professionnels. Et surtout, il vaut mieux que je précise, parce que sur des enjeux. Demain, et j'espère que tout à l'heure, nous en aurons d'autres, je dirais aujourd'hui, du public et de la population, je dirais, Saint-Antonin, qui va dire, il y a ça, il y a ça. Pas pour autant que c'est un regard néfaste. Nos anciens...
Moi, je pense que quand on élabore une charte, en premier, on fait référence à ce que nous ont légué nos anciens, et je tiens à ce que ça y figure et que ça y soit fortement marqué. Voilà. Bon, après, sur l'urbanisme, bon, moi, je pense qu'un maire, il joue pas le jeu, il fait pas ce qu'il veut. Un maire, il est encadré par des plans de documents d'urbanisme qui sont élaborés avec les services de l'État, et on est quand même très contraint là-dessus, et je pense que là-dessus, ça sera important. Attends, moi, je parle en tant que maire, bon, je ne suis pas concerné, mais les maires concernés, je pense que la problématique que vous avez abordée en préambule, le problème de l'urbanisme, il faudra bien savoir comment vous y associer, si vous aurez un délégué qui sera personne associée à l'élaboration des documents d'urbanisme pour les communes, parce que c'est quand même important de le préciser dès le départ. Moi, je peux vous dire que, bon, quand on a le parc national du Mercantour, bon, on compare ce qui est à côté, c'est peut-être pas bien la même chose, mais il y a quand même un délégué qui est associé, et puis bien souvent, je le dis, ce sont des ayatollahs, à ce moment-là, on est plus maître de chez nous. Voilà. C'est là qu'il faudra être prudent. Bon, je pense que sur l'urbanisme, c'est important que ce soit clairement défini sous quelle façon le PNR va intervenir et va proposer ou pas imposer. Voilà, ça sera quand même un document, je pense, au niveau des maires, qui sera important pour les maires. Et puis, deuxièmement, et bon, je ne veux pas soulever un lièvre, mais au niveau de l'urbanisme, bon, vous savez quand même que maintenant, il y a aussi la loi qui a changé. On a des délais de réaction extrêmement courts sur les réponses de permis. Il est venu se rajouter depuis le 1er janvier 2009 dans la loi SRU, urbanisme et habitat, avec la problématique des réseaux électriques. Hein. Bon, vous savez que dans les mairies, on va pouvoir faire payer, quand quelqu'un va déposer un permis de construire, une provision pour voirie et réseau, hein, parce que c'est vrai qu'une collectivité, quand elle construit des voiries, qu'elle en fait bénéficier des futures personnes qui vont construire, elle a un coût, donc là, il va y avoir une condition où la commune va être en droit de faire payer, hein, par les libérations du conseil municipal, ça va être un sacré problème. D'ailleurs, au niveau de l'association des maires, avec EDF, on va avoir une grosse réunion importante. Également, les réseaux électriques, bon, jusqu'à présent, c'était fait par le FACÉ et des renforcements. Maintenant, ça va être fait par la commune. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une instruction de permis, on est en train de demander avec les services de l'EDF et de l'État, à ce que de suite les maires consultent les services de l'EDF, les services du syndicat département de pour répondre dans les mois qui suivent, le prix du branchement. Parce que bien souvent, on dit oui, il y a le courant, on met le courant, mais il faut renforcer un transfert, et enfin, on va avoir une réunion, mais ça répète, c'est après. Là, les députés, ils ont voté encore une loi où l'EDF se décharge sur les communes. Bon, voilà, donc moi je pense que là aussi, il va y avoir le problème au niveau de l'urbanisme, et qu'il va falloir que vous y penchiez, c'est que Carros, Gatière et Le Broc font quand même partir de l'OIN, donc c'est l'OIN qui instruit les permis, il va falloir quand même qu'au niveau juridique, vous pensiez à cela. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire, mais par contre, je répète bien, au niveau de l'urbanisme, moi je pense que les maires qui sont là seront attentifs, et tous les maires d'ailleurs, il faudra être bien précis sur ce que vous allez rédiger. Voilà.